La marche du monde.
Une bonne ménagère fait le plus souvent une bonne épouse. La jeune fille qui sait tenir sa maison en ordre et surtout qui sait mijoter des plats a droit à la considération masculine.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
La bonne ménagère fera une bonne épouse, dévouée à son mari et bien sûr une bonne mère dédiée à l'éducation de ses enfants. C'est ainsi que l'on imagine l'idéal féminin au début du XXe siècle et c'est ainsi que l'école de la République se propose de le fabriquer. La fabrique des filles, c'est le titre provocateur du livre de notre invitée Rebecca Rogers, où l'on apprend que les bonnes manières apprises grâce aux leçons de broderie se verront remises en question par les féministes et les cours d'éducation sexuelle. Une révolution durement conquise pour les uns et une révolution contre nature pour quelques autres. C'est ainsi que la question de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes se retrouve une fois de plus à la une de l'actualité.
Est-ce qu'elles sont belles ces nanas ?
Diablesse !
Ah la vache ! Qu'elles sont belles !
Diablesse !
Je suis femme !
Moi je suis une femme libérée ! J'ai jamais attendu qu'un homme me donne des conseils dans la vie !
Je suis la première à mettre le holas dans Jean-Pierre dans un joué macho.
Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas.
Qui c'est qui a dit que les filles maintenant n'étaient plus comme celles d'avant? Qui c'est qui a dit? Qui c'est qui a dit tout ça? Et c'est comme ça.
Bonjour Rebecca Rogers.
Bonjour Valérie Nivelon.
Et merci de venir nous faire partager vos lumières d'historienne et spécialiste de l'histoire des femmes. Tiens d'ailleurs, il n'y a plus de ministère des droits des femmes en France. Qu'en pensez-vous ?
Plus de ministère des droits des femmes.
Plus de ministère.
Ah, plus du ministère des droits des femmes. C'est évidemment pas formidable, hein, mais on est contente de voir l'ancienne ministre à l'éducation nationale.
Voilà, donc Najat Belkacem, et qui hérite également quand même d'un secrétariat pour les droits des femmes. Alors par ailleurs, l'impact de l'école dans la fabrique des filles, pour reprendre votre titre, est-ce que c'est une spécificité française ou bien l'avez-vous observé aux États-Unis ou encore en Afrique?
Bon, c'est évident que l'école fabrique des filles comme des garçons partout dans le monde, mais peut-être de manière plus forte dans des pays où la scolarisation est plus parcellaire, où il y a un peu moins d'écoles disponibles pour tout le monde.
Et en l'occurrence, en Afrique, c'est ce modèle d'école républicaine française qui a été inoculé, hein, puisque ce sont d'anciennes colonies, donc on retrouve un système.
C'est vrai qu'on retrouve beaucoup le legs d'un enseignement colonial où, par exemple, toute cette orientation vers la vie ménagère, l'apprentissage de la couture, de la broderie, qui sont aussi des talents qui peuvent faire gagner de l'argent, hein, donc c'est pas négligé, mais qui n'empêche, renforce l'idée qu'il y a des activités pour les femmes et des activités pour les hommes, ces dernières étant en général bien mieux rémunérées.
Alors en ce qui concerne la France, on apprend grâce à votre livre que Jules Ferry avait de l'humour. En effet, dans un discours de 1870, le futur ministre de l'Instruction publique affirme, je le cite, « Réclamer l'égalité d'éducation pour toutes les classes sociales, ce n'est que faire la moitié de l'œuvre. Cette égalité, je la revendique pour les deux sexes. Cela servira aux femmes à élever leurs enfants, mais aussi à élever leurs maris. L'égalité d'éducation, c'est l'unité reconstituée dans la famille. » Il avait donc de l'humour, Jules Ferry.
Je pense qu'il avait de réelles velléités émancipatrices, hein, pour les femmes, mais c'est difficile en 1870 et encore en 1930 de revendiquer une éducation pour les filles comme individu. Et du coup, on continue pendant très longtemps, et je dirais même avec un peu de provocation encore aujourd'hui, à dire que quand on pense l'éducation des filles, on pense quand même leur avenir en tant que mère dans une famille.
Et donc, vous montrez que Jules Ferry, c'est bien sûr l'école obligatoire et gratuite. C'est donc aussi cette égalité d'éducation. En tout cas, il innove avec cette volonté de faire entrer les filles à l'école. Et vous dites quand même avec une ambition qui reste donc traditionnelle. Mais quand même, ça porte ses fruits puisque la première bachelière, c'est quand même 1861. Donc on a envie de dire merci Jules Ferry. Et en 1926, on a quand même 2134 filles reçues au bac. Vous précisez qu'en 1926, 18% des bacheliers sont des bachelières.
C'est ça. Alors, la première bachelière, Julie-Victoire Daubier, c'est en 1861, avant les lois Ferry. Quelqu'un qui a dû se batailler pour avoir son baccalauréat, parce qu'on ne voulait pas lui donner. Petit à petit, des jeunes filles vont obtenir le baccalauréat, mais toujours en le préparant en dehors de l'école, avec l'aide de leur parents, leurs pères surtout, des oncles, des frères. Et puis, dans l'entre-deux-guerres, une loi permet aux jeunes filles de suivre dans l'enseignement public une filière vers le baccalauréat. Donc ça ouvre évidemment des portes et dans lesquelles les jeunes filles vont s'enfoncer, notamment après la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, vous le montrez bien, Rebecca Rogers, les représentations de la femme évoluent peu. Malgré la guerre mondiale, la naissance du mouvement féministe et l'entrée des femmes dans le monde du travail, le modèle reste celui de la femme au foyer. Et le modèle, c'est donc cette fédulogie avec une sorte de point paroxysmique. C'est le régime de Vichy avec Pétain, chef de la France collaborationniste avec les nazis.
Mère de famille française, la France célèbre aujourd'hui la famille. Elle se doit d'honorer d'abord les mères. Maîtresse du foyer, la mère, par son affection, par son tact, par sa patience, confère à la vie de chaque jour sa quiétude et sa douceur. Par la générosité de son cœur, elle fait rayonner autour d'elle l'amour, qui permet d'accepter les plus rudes épreuves avec un courage inébranlable. Mère de notre pays de France, votre tâche est la plus rude, elle est aussi la plus belle. Vous êtes avant l'État, les dispensatrices de l'éducation. Vous seules savez donner à tous ce goût du travail, ce sens de la discipline, de la modestie, du respect qui fait les hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les inspiratrices de notre civilisation chrétienne.
Moi, je vous demande une fois l'an d'offrir des fleurs de printemps à toutes les héroïnes vivantes. Oh, vous les rencontrez chaque jour, ces héroïnes. Elles n'ont ni auréole ni cuirasse d'or. Rien ne les distingue des autres femmes. Seulement sur leur visage, le même reflet de joie. Et toutes, elles portent le même nom. Ce sont les mamans.
Au nom de son cher triptyque « Travail, famille, patrie », Pétain réhabilite donc la fête des mères. Mais en 1945, avec la victoire des Alliés, De Gaulle et la France libre changent la donne. Les femmes deviennent électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
Je me trouve actuellement au boulevard Arago. Il est 12h30 et je vais chercher, disons, ma victime. Madame ! Mesdames ! Oui, approchez, s'il vous plaît. Pourriez-vous approcher du micro ? Madame, je m'excuse de vous aborder, mais je suis en train de faire un reportage sur le vote des femmes. Et je voudrais vous demander d'abord ce que vous faites dans la vie.
Vous travaillez ? Secrétaire, monsieur, oui.
Secrétaire et mère de famille, je voudrais avoir votre opinion sur le vote en général, et plus spécialement, évidemment, sur le vote des femmes.
Que voulez-vous que je vous dise ?
Madame, croyez-vous que les femmes ont actuellement, en général, une éducation politique suffisante pour pouvoir voter en tout état de cause ?
Oh, je le pense, si on n'est pas trop ambitieux, n'est-ce pas? Je pense qu'elles auront la sagesse de se cantonner dans des questions purement sociales, jusqu'à ce qu'elles aient acquis une expérience leur permettant de se mêler à la vie politique.
Oui, mais madame, il y a une chose que je ne comprends pas très bien. Comment voyez-vous qu'on peut effleurer le plan social sans toucher le plan politique, parce que ils sont intimement mêlés.
Bien sûr, oui, oui, c'est d'accord.
L'élève ne peut pas devenir tout d'un coup meilleur que le maître. Et je rendrai cet hommage aux hommes, ils sont nos guides.
Ah, très bien.
Reportage d'archives de 1945 dans la Marche du Monde, dans les oreilles de notre invitée historienne Rebecca Rogers, auteure de La Fabrique des Filles aux éditions textuelles.
Eh bien, ça montre la lenteur des évolutions. On peut considérer que 45, c'est un grand moment pour les femmes. Enfin, électrice, le droit de vote qui devient véritablement universel en France. Et en même temps, le journaliste qui continue à être persuadé que les femmes n'auront pas les raisonnements, la culture, l'éducation nécessaires pour bien voter. Et la femme qui n'est pas très sûre si elle est pleinement électrice. Elle commence en disant qu'elles vont se cantonner à la vie sociale, donc en somme d'accepter le champ qui a été ouvert aux femmes depuis bien longtemps, mais en même temps sent quand même un peu petite envie que ça débouche sur quelque chose de plus, mais c'est les hommes qui vont l'emmener vers ses plus grandes connaissances.
Alors ça y est, les femmes votent, les femmes font des études, on l'a dit, les femmes quittent les champs pour l'usine, les femmes entrent dans les entreprises et certains métiers deviennent des métiers de femmes, comme la sténodactylo.
Eh bien, en effet, au coin de la rue de l'Estrapade a lieu ce championnat français de sténotypie et ce championnat international en même temps. J'ai prié Madame Grandjean, la fondatrice de cette méthode, de bien vouloir venir me retrouver pour bavarder un petit peu avec moi. Et il y a également ici Madame Jaillon, qui est professeure également de sténotypie, une autre dame, Mademoiselle Morange, qui est également professeure et qui, elle, tout à l'heure, va nous montrer ce qu'on arrive à faire avec cette méthode. Je vais demander à Mademoiselle Morange, je n'ai pas oublié son nom, je vais demander à Mademoiselle Morange de bien vouloir me lire à la vitesse maxima, laissez-moi finir, à la vitesse maxima, si je ne me trompe pas, la dictée, par exemple, que vous présenterez tout à l'heure
oui,
au dernier.
Je m'excuse, monsieur, mais je n'ai que sous la main un texte à 260 mots. Oh, ça ne fait rien.
Ah, mais ça ne fait rien, vous pouvez le lire, vous pouvez lire à la vitesse de 270 mots.
Oui, oui, oui.
Alors je vous écoute.
Je vais le lire à 260 mots.
Oui, ça sera déjà très beau.
Il est bon d'entraîner de bonne heure les enfants à n'avoir pas peur de l'eau. Savoir nager est un grand avantage dans la vie moderne et il n'est pas inutile d'accorder à cette question l'attention qu'elle comporte.
Tout d'abord, je laisse parler Mademoiselle Morange pour vous signaler qu'elle tient naturellement son papier d'une main, sa montre de l'autre et que son œil va de la montre au papier pour suivre très exactement à une seconde près le concours.
L'appréciation à entrer dans l'eau tout au moins au début.
Je vous remercie Mademoiselle, je vais vous épargner la minute entière et je crois que nous avons fait comprendre à nos auditeurs et surtout à nos auditrices, parce que votre public est essentiellement féminin, Madame Grandjean, je crois que nous leur avons fait comprendre que quand on possédait bien cette science de la sténotypie, on pouvait aller très vite et on gagnait en même temps du temps.
Absolument.
Je vous remercie, mesdames, et je vous laisse à votre concours, à vos jeunes filles et à vos occupations.
La dactylo, pimpante, sort du métro, souriante, le petit trône. Elle arrive au bureau et chante.
Le directeur, sérieux, très très pressé, soucieux, regarde l'heure et commence à dicter, messieurs.
La dactylo,
soupire,
vite en sténo,
sans rire,
note des mots, encore des mots.
Narti,
quand c'est fini,
assez,
c'est pas fini,
allez,
faut tout taper.
Alors les premiers concours de sténodactylo dans les années 50 ont un succès fou. C'est une formidable publicité pour les marques de machines à écrire, mais c'est aussi une façon de légitimer la rentabilité de la secrétaire, Rebecca Rogers.
Oui, c'est formidable hein, cet extrait. Je ne connaissais pas les caractéristiques des compétitions de sténotypie. Évidemment, les années 50, c'est un moment assez fascinant parce qu'il y a cette revalorisation du rôle des femmes dans les foyers avec tout le nouveau électroménager qui peuvent les aider à être la femme moderne, mais la femme au sein de son foyer. Et en même temps, il y a ces sciences ménagères, ces sciences de la sténotypie qui permettent aux femmes de gagner leur vie. Et on voit ce mélange de conservatisme dans la représentation du rôle des femmes dans la société, tout en ouvrant un petit peu les portes vers une forme de, d'émancipation financière qui est quand même importante.
Voilà, un début d'émancipation financière avec des métiers aussi très sexués, hein, puisque là c'est un métier de fille, hein, on l'a bien compris. Le présentateur laisse ces dames retourner à leur concours et à leur public féminin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les stars des concours de scénotypie sont aussi bien des hommes que des femmes. Hein. Et alors, à l'époque, si les métiers sont donc très séparés, qu'en est-il de la mixité à l'école dans cette après-guerre ?
Dans l'après-guerre, on a un formidable essor des écoles primaires parce qu'il y a le baby-boom, il faut des écoles et ces écoles primaires ont tendance de plus en plus à être mixtes d'emblée. Alors, continue à avoir des écoles de filles et des écoles de garçons, mais depuis les années 1930, on accepte l'idée qu'on regroupe les enfants et que les institutrices s'occupent des petits. Et l'instituteur s'occupe des plus grands. Mais dans l'enseignement secondaire, on est encore dans un système qui est très séparé, avec c'est vraiment très exceptionnel de voir des filles chez les garçons et encore moins les garçons chez les filles.
Alors en attendant l'officialisation de la mixité, et grâce à Germaine Montreuil-Strauss, la question de l'éducation sexuelle se pose à l'école.
L'éducation étant par définition une préparation à la vie, l'éducation sexuelle est tout simplement l'éducation qui prépare l'enfant et l'adolescent à vivre sa vie sexuelle normale, qui est la vie familiale.
Mais comment comptez-vous parvenir à ce but ?
Eh bien d'abord en lui donnant des connaissances biologiques, c'est-à-dire que l'enseignement biologique est la base de l'éducation sexuelle. Mais à côté de cela, bien entendu, il faut apprendre à l'enfant à se rendre maître de ses instincts, de ses impulsions et à se forger un idéal. Mais ceci n'est pas affaire d'enseignement, c'est affaire d'éducation et surtout d'exemple.
La voix de Germaine Montreuil-Strauss, fondatrice du comité d'éducation féminine et militante donc pour que, à l'école, on puisse enseigner l'éducation sexuelle. Quel est son discours ? Que prône-t-elle ?
C'est vrai que c'est quelqu'un qui, de manière très précoce, parce que dès les années, à la fin des années 20, elle va militer pour que les jeunes filles puissent avoir des connaissances sur leur corps pour maîtriser leur fécondité. Et c'est aussi beaucoup une réflexion hygiénique qu'elle soutient, mais elle va avoir, c'est très difficile de faire entendre ce message dans l'école.
Donc en même temps, c'est très novateur, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas en parler à la maison. Il y a quand même un poids de l'Église en France à l'époque extrêmement important. Donc, ce serait quand même le seul endroit où on pourrait avoir des informations, finalement.
Oui, tout à fait.
C'est un peu ça, son idée.
Oui,
hein.
Voilà. Et c'est évident qu'en démarrant avec les connaissances biologiques, c'est le premier pas vers des connaissances qu'on pourrait partager. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de quelle écoute avait-elle chez les instituteurs ou les institutrices ou dans l'enseignement secondaire pour faire passer ce message. Et là, je suis plus sceptique.
Hein. Un message d'avant-garde, donc. La fabrique des filles de Rebecca Rogers et de Françoise Thébault est dans la marche du monde. On se retrouve juste après le flash et vous avez de la chance. Les infos sont pour les filles mais aussi pour les garçons sur RFI.
Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux. Je vais seul, car personne.
marche du monde.
Hi Bobby.
Hi Ken.
Do you want to go for a ride?
Sure again.
Jump in. Mm-hmm.
I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Ses jambes sont longues, sa taille est fine et sa poitrine opulente. Poupée, adulée par toutes les petites filles du monde, Barbie a toujours été honnie par les féministes du monde entier pour sa représentation de la femme comme objet sexuel. Il n'empêche que dans les années d'après-guerre, Barbie incarne un nouveau modèle féminin. Certes, son regard est taquin et langoureux, mais sa modernité fait rêver.
Barbie, you're beautiful. You make me My Barbie doll is really real. Barbie's small and so petite. Her clothes and figure look so neat. Her dancing outfit rings a bell. At parties she will cast a spell. Purses, hats and gloves galore. And all the gadgets gals adore.
Barbie dressed for swim and fun is only $3. Her lovely fashions range from $1 to $5. Look for Barbie wherever dolls are sold.
Someday I'm gonna be exactly like you. Till then I know just what I'll do. Barbie, beautiful Barbie. I'll make believe that I am you.
You can tell it's Mattel. Well.
Depuis 1945, les femmes s'émancipent. Elles votent, elles travaillent et elles sont de plus en plus éduquées. L'école de la République forme ses premières élites féminines et grâce à Simone de Beauvoir et à ses mémoires d'une jeune fille rangée, elles savent qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient.
On m'a demandé quelquefois pourquoi j'avais passé 7 ans à écrire mon autobiographie. Et en effet, elle représente une partie importante de mon œuvre. Puisqu'il y a 3 volumes, les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses. J'ai intitulé le dernier volume « La force des choses » parce qu'il va de 1945 à 1962 et à cette époque, depuis la guerre, je me suis rendu compte de l'importance que les circonstances avaient dans le déroulement d'une existence, alors qu'auparavant, je croyais que ma vie était une histoire que je me racontais. Mais il y a aussi une raison pour laquelle j'ai écrit ces livres, c'est que personnellement, j'aime beaucoup lire les autobiographies. Et tout ce qui est en somme des documents bruts, ou mémoires, souvenirs, journaux, etc. Il y a une certaine qualité dans la vérité, précise, factuelle, qu'on ne peut pas retrouver dans les romans, même les meilleurs, même les plus inspirés, même les plus profonds.
La voix de Simone de Beauvoir dans La Marche du Monde. La philosophe Simone de Beauvoir pense en 1958 ce que vous appelez aujourd'hui la fabrique des femmes, Rebecca Rogers. Qu'est-ce que Simone de Beauvoir met en évidence pour la première fois à l'époque ?
Elle écrit ce livre, Le Deuxième Sexe, en 49, qui est tout un très long plaidoyer pour montrer le poids des événements, mais aussi de l'éducation, de biologie, qui fait que les femmes, effectivement, sont fabriquées pour être d'une certaine manière et pour réagir contre quelque chose qui serait vécu comme inéluctable, hein. Et c'est pas très bien entendu à l'époque, mais je dirais c'est plutôt dans les années 60 où là les féministes vont s'en saisir de cet ouvrage pour dire oui, on peut changer cette vision des femmes.
Alors Beauvoir, grâce donc à Jules Ferry, si on a bien suivi depuis le début, elle a eu son bac en 1925 et son père, qui avait rêvé d'un fils polytechnicien, lui disait: Simone, tu as un cerveau d'homme. Ça montre bien la mentalité de l'époque.
Ah oui, c'est clair que dans les années 20, ses ambitions intellectuelles choquent son père, qui a envie qu'elle soit éduquée, mais qui n'a pas envie qu'elle utilise cette intelligence pour quitter le rôle d'une bonne mère dans une famille catholique.
Et c'est tout le paradoxe que vous décrivez tout au long du XXe siècle en tant qu'historienne et spécialiste de l'histoire des femmes, et encore plus après 45, c'est-à-dire une évolution spectaculaire, écrivez-vous, naviguant entre un éternel féminin et une émancipation durement conquise.
Oui, et c'est ça qui est merveilleux dans l'éducation, je pense, hein, parce que ça a ces deux potentialités depuis toujours et partout. Et c'est vrai que la tâche de l'historien, c'est de voir les moments où, en tout cas, nous, dans notre livre, on a voulu montrer les moments où les femmes se sont appropriées une éducation qui pouvait être conservatrice dans ces messages, mais pour en faire autre chose, tout en montrant que, voilà, le message est très souvent conservateur.
Et en 1954, un charmant petit monstre fait scandale avec son premier roman. Dans Bonjour Tristesse, Françoise Sagan met en scène les expériences sexuelles d'une très jeune femme. Comment expliquez-vous le succès absolument phénoménal que rencontre le livre, et encore aujourd'hui, puisque j'ai vérifié, il a été tiré maintenant à plus de 2 millions d'exemplaires. 2 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
C'est un magnifique coming of age story, n'est-ce pas? Et en décalage avec ce dont on a l'habitude, quand c'est le garçon qui raconte ses expériences. Alors je pense que ça titille d'autant plus garçon et fille, j'imagine, parce que la jeune fille ne devrait pas vivre ce type d'expérience, ni les souhaiter. Donc elle, c'est quelqu'un qui revendique la sexualité féminine, et ça c'est quelque chose qui est encore difficile dans beaucoup de milieux à entendre.
Françoise Sagan, est-ce que vous êtes consciente du succès que vous avez eu?
Oui, on me l'a assez reproché pour que je le connaisse.
Ça vous a peiné qu'on vous le reproche?
Non, classique, c'est même normal.
De toute manière, on ne vous a pas reproché votre succès.
Oh, si, beaucoup de gens.
On a reproché les prolongements du succès. C'est-à-dire les voitures rapides. Vous avez même reproché un accident, ce qui était quand même un peu excessif.
Non, c'est-à-dire... Comme on ne peut pas reprocher un succès, on peut pas reprocher à un public d'acheter tant d'exemplaires de livres, on cherche après à s'attaquer à la personnalité propre de quelqu'un. On ne s'attaque plus du tout à son œuvre, on s'attaque à la personne elle-même. Alors le whisky, les voitures, je ne sais plus quelles âneries, c'était l'occasion de me tomber dessus, mais en fait le reproche était de la réussite, je crois.
Sacré Sagan. Si l'expérience de la liberté sexuelle a fait le succès et le scandale du livre de Sagan dans les années 50, où les filles ont massivement rejoint les bancs de l'école, on se rend compte, en vous lisant, Rebecca Rogers, que certes, il y a un accès égalitaire à l'éducation, mais que l'éducation reste très longtemps différenciée. Alors concrètement, comment ça se passe, par exemple, au niveau des exercices avec le maître ou la maîtresse, ou encore au niveau des dictées, parce que votre livre, votre album, j'allais dire, regorge de documents avec ces dictées reproduites. Racontez-nous ça.
C'est vrai que l'une des dictées qui est le plus frappant, ou un exercice décrit en cours maternelle en 1960, où une jeune fille raconte que dans une famille, la maman fait les repas, la vaisselle, et parfois elle a un métier comme le père. Et on voit en 1960 que encore, bon, il y a des petits progrès, on envisage le travail des femmes, mais on envisage surtout le rôle de la mère dans le foyer.
Voilà, on voit bien qu'on continue à transmettre les archétypes et les stéréotypes, hein, on dit aujourd'hui, de la femme et de l'homme. Chacun ses tâches, comme si rien n'avait changé. Alors, elles ne sont du coup à l'époque les femmes que minorité à atteindre les plus hauts niveaux, et notamment la prestigieuse École Polytechnique.
À Paris, une école assez inconnue du grand public, qui est l'école polytechnique féminine. Or, cette école polytechnique féminine est fort importante, puisqu'elle décerne un diplôme reconnu par l'État et forme des jeunes filles ingénieures qui sont très recherchées, en particulier dans les bureaux d'études de toutes les grandes affaires, mais aussi dans l'aéronautique, dans les laboratoires de recherche pour la radio, la télévision, etc.
Mais le problème, c'est que les élèves de cette école sont encore sans école fixe.
Les cours ont lieu au lycée La Fontaine, à la porte d'Auteuil, mais malheureusement, nous n'avons pas de bâtiment fixe et nous sommes un peu errante d'école en école, puisque nous avons d'abord été à l'école centrale, ensuite au conservatoire des arts et métiers, et maintenant nous sommes au lycée La Fontaine en attendant d'avoir une école à nous, et qui nous espérons sera construite dans à peu près un an. Notre directrice, Mlle Paris, justement, s'occupe d'avoir des prêts auprès des industriels, afin d'avoir les fonds nécessaires pour construire cette école.
J'essaie de tout mon cœur d'y parvenir. Je dois dire que Mademoiselle Paris, c'est sinon aérodynamique, mauvaise plaisanterie, disons simplement, très dynamique. Mais enfin, je dis aérodynamique parce qu'elle est, n'est-ce pas, pilote d'avion elle-même.
Oui,
enfin.
Justement, elle a construit un prototype il y a quelques années.
Oui, c'est vraiment une femme tout à fait remarquable et qui est parfaitement à sa place là.
Alors, il faut trouver de l'argent à l'époque pour cette toute nouvelle élite féminine de Polytechnique, Rebecca Rogers.
Il s'agit de l'école polytechnique féminine, qui est une institution qui naît après la Première Guerre mondiale. C'est étonnant, on savait pas qu'il y avait des filles qui entraient dans des écoles. Certaines des grandes écoles deviennent mixtes au moment de la Première Guerre mondiale. Mais elles restent une toute petite minorité, et c'est clair que... On n'a qu'à regarder les chiffres encore de nos jours du nombre de filles dans ces établissements. Ça reste une conquête, quelque chose qui est exceptionnel, de jeunes filles qui sont pas dans la norme mais qui, à la limite, se rapprochent des garçons.
Accrochez-vous, les filles. Mais la grande révolution à l'école va être la généralisation de la mixité de 1957 à 1976. Et ce n'est pas une mince affaire. D'ailleurs, dans le Grand Larousse encyclopédique de 1963, on peut lire « Mixité non féminin, état d'une école où les filles et garçons sont admis, certains éducateurs émettent des doutes sur l'efficacité de la mixité. » J'ai trouvé ça pour vous, Rebecca Rocha.
Oui, oui. C'est étonnant, moi. Cette histoire de la mixité me fascine. Venant des États-Unis, où j'ai toujours été dans un établissement mixte et que je ne me posais pas tellement cette question, mais on voit une forte réticence vis-à-vis de la mixité, avec l'idée... Je pense en partie impulsé par l'Église catholique que, en mettant ensemble les garçons et les filles, chaque sexe va déteindre sur l'autre, et ça c'est évidemment mauvais. Que les garçons vont devenir un peu des femmelettes et les filles vont devenir des hommasses. Alors, il y a quelques pédagogues un peu dans la mouvance de l'éducation nouvelle qui, au contraire, pensent que ça va donner un peu de tonus aux filles et rendre les hommes un peu plus doux et moins bruts dans leurs rapports sociaux. Donc, c'est un vrai débat en France.
Tout à fait. C'est tout à fait naturel pour vous, en tant qu'Américaine, cette mixité à l'école. Il y a évidemment des réticences en France à l'époque de l'après-guerre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez aussi travaillé sur l'éducation en Afrique, Rebecca Rogers. Et alors, quel accueil pour la mixité avec les enseignants, les élèves que vous avez rencontrés?
Non, c'est vrai que ça dépend énormément des endroits, mais c'est clair que dans les pays qui ont été influencés par le modèle français...
L'Afrique de l'Ouest francophone, par exemple.
On a tendance, et notamment par un modèle missionnaire porté par des congrégations religieuses, eh bien la non-mixité, c'est aussi un moyen pour les jeunes filles d'aller à l'école, parce qu'on ne voudrait pas, les familles ne voudraient pas que leurs filles soient dans un établissement entouré de garçons. Donc c'est compliqué, la mixité.
Mais que serait la libération de la femme sans la modernisation des arts ménagers?
Cette année, la course au confort a pris un départ foudroyant au salon des arts ménagers, qui déjà regorge de monde. Nous avons ici une jeune conseillère ménagère de l'EDF qui a bien voulu venir nous donner les tendances du salon 1960.
Alors, beaucoup de nouveaux petits appareils spécialisés. Autrement, beaucoup d'améliorations de détails dans tous les gros appareils.
Dans tous les gros appareils, par exemple
Ah, la machine à laver rotative, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, autant de progrès techniques qui, indiscutablement, ont facilité la vie des ménageurs. Mais ces femmes qui ont leur bac, qui votent, qui conduisent, qui travaillent, savez-vous qu'en 1965, elles sont toujours considérées comme des mineures par la loi française?
On a noté qu'en général, les femmes votent plus tôt que les hommes. Cette année, les femmes sont très nombreuses. Elles représentent 53% du corps électoral. Et savent bien ce qu'elles veulent. C'est véritablement la libération de la femme, une décolonisation de la femme mariée. C'est de cette façon qu'on résume d'une formule la réforme des régimes matrimoniaux décidée hier par le gouvernement. En un mot, la femme sera enfin majeure.
« Merci d'écouter La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes en 1965 et nous, les femmes, venons juste d'obtenir notre majorité. Nous sommes contentes. Qu'est-ce que cela signifie exactement, Rebecca Rogers? Qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne?
Je pense là, ça a rapport avec la possibilité pour les femmes d'ouvrir des comptes en banque sans l'autorisation du mari. Et du coup, c'est vrai que c'est l'indépendance financière. Hein, c'est la possibilité de disposer de son salaire comme on le souhaite. Et c'est certainement un peu le nerf de la guerre, hein, de pouvoir avec ce qu'on a acquis par le biais de l'éducation, par les diplômes qu'on a, de vraiment pouvoir imaginer son avenir sans être à deux.
Et c'est une situation, hein, cette non-indépendance financière et juridique, hein, que connaissent encore nombre de femmes dans le monde. Je pense notamment à l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, avec la révolution sociale et culturelle de mai 68, les femmes vont transformer l'essai et faire leur propre révolution en 1970 avec le MLF, le mouvement de libération des femmes. Et c'est aussi un moment où des personnalités féminines, vous le soulignez dans votre livre, des actrices notamment, vont prendre la parole. Écoutez Jeanne Moreau au micro de Jacques Chancel.
Il est certain que dans la vie de la société, il y a des choses à faire pour défendre les femmes. Pour défendre les femmes et surtout pour leur donner une place qu'elles méritent. Parce qu'il y a des postes qui leur sont interdits. Et en Amérique, c'est même beaucoup plus qu'en France. Je déjeunais à midi avec Anaïs Nin, elle me disait, par exemple, une chef monteuse, en Amérique, ça n'existe pas. Ça a été un énorme choc quand, lors des derniers Oscars, c'est une chef monteuse française qui a eu un Oscar. Il y a un tas de choses qui leur sont interdites. Et il est certain que une femme, lorsqu'elle entreprend quelque chose, est toujours traitée avec un peu de condescendance. Elle est moins payée que les hommes.
On trouve que ça ne fait pas sérieux.
Voilà, on trouve que ça ne fait pas sérieux.
Les métiers interdits en France, mais aussi aux États-Unis, ce qui ne correspond pas forcément aux idées reçues sur l'Amérique, Rebecca Rogers.
C'est vrai que les femmes travaillent moins aux États-Unis qu'en France. Hein. C'est l'une des choses qu'on voit bien, les historiennes et les sociologues du travail, hein, l'importance du travail en France. Et je pense que ça conditionne le rapport aussi à l'éducation, aux droits civiques, le fait que, voilà, c'est pas du tout exceptionnel que les femmes travaillent, même dans ces années après-guerre où il y a cette incitation à participer au salon des armes ménagers, par exemple. Et ça, c'est vraiment une forme de spécificité française, hein, l'importance du travail.
Tout en faisant des enfants, hein, d'ailleurs.
Tout en faisant des enfants, parce qu'on a des écoles dès 3 ans et aussi des crèches de plus en plus aussi.
Alors justement, à l'école, on y retourne, Rebecca Rogers, puisque c'est là où se fabriquent les filles. Et revenons à l'éducation sexuelle, telle qu'elle est enseignée dans une école devenue totalement mixte en 1974. C'est le lycée Carnot à Paris.
Mais à partir de la 6e, ça fait partie du programme de sciences naturelles, donc ça ne pose pas de problème. Puisque ces petits-enfants commencent à partir des animaux et que ça n'a rien de plus difficile de le comprendre à partir de l'être humain. Bon, mais beaucoup plus petit, de toute façon, c'est la même chose, ils posent des questions tout seuls. De toute façon, on est tellement dépassés par nos enfants que l'éducation sexuelle, ils savent s'en débrouiller tout seuls et se renseigner tout seuls.
Bah, c'est comme on fait les enfants, la vie de l'homme, quoi.
Et est-ce que tu en parles avec tes parents? Est-ce que tes parents t'en ont parlé?
Oui, beaucoup. Ils m'ont dit comment ça se passait. Et ben, je l'ai jamais fait. Non. Et ben, il y a l'homme qui met une graine chez la femme et puis la femme donne un bébé. C'est lui qui a résumé, hein.
La souris mâle introduit son pénis dans le
cœur éclate. Il a envie de jouer et de s'éparpiller en 100 000 folies. Mon cœur explose de trop vouloir aimer. J'ai
On peut se demander, finalement, aujourd'hui, là, depuis 2011, pourquoi certaines connaissances comme la sensibilisation à l'homophobie ou encore la question des stéréotypes féminins et masculins font à ce point polémique en France. Alors, on a beaucoup parlé de cette fameuse soi-disant théorie du genre qui viendrait de chez vous, les Américains. Alors, qu'en est-il, hein?
Bon, ça a été beaucoup dit, hein, la théorie du genre n'existe pas. Le genre, c'est vraiment une catégorie d'analyse, c'est une manière de penser les différences de sexe, comme les classes sociales permettent de penser les différences liées au niveau socio-économique. Et c'est évidemment une richesse pour comprendre la société, parce que toutes nos sociétés sont divisées entre des hommes et des femmes, et c'est extrêmement structurant dans toutes les sociétés. Évidemment, je pense qu'en France, la réaction a été en partie couplée avec tous les changements par rapport à la famille. C'est là où je pense qu'on comprend mieux, parce que là, pour le coup, il y a d'énormes transformations dans ce que c'est une famille, et on peut comprendre que ça déstabilise. Mais de là à accuser les chercheurs qui utilisent le genre pour penser les différences entre les sexes dans les sociétés, c'est quand même très très étonnant.
Bon, d'ailleurs, la rumeur s'est tout de même dégonflée et ça s'est calmé. Alors, il y a 40 ans, en France en tout cas, pour pouvoir justement réaliser d'une façon un peu plus large cette égalité entre femmes et hommes, Giscard d'Estaing, le plus jeune président de France, créait un secrétariat d'État aux affaires féminines.
Françoise Giroud, nommée secrétaire d'État à la condition féminine, la directrice de l'Express avait été reçue ce matin par Valéry Giscard d'Estaing, puis il y a quelques instants par le chef du gouvernement Jacques Chirac. Françoise Giroud vient de sortir de cette entrevue avec le chef du gouvernement et je crois que nous sommes en liaison en direct avec elle. Alors Françoise Giroud, cette nouvelle constitue pour chacun d'entre nous une surprise. Qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous aviez été pressenti, mais non nommé au gouvernement, et aujourd'hui?
Écoutez, pour moi, rien n'a changé. Le président de la République m'avait en effet fait cette proposition il y a quelques semaines. Elle m'a été confirmée aujourd'hui par le Premier ministre, je l'ai acceptée.
Alors, pourquoi faire?
Ah, je pense qu'il y a une grande idée générale qui est que le moment est vraiment venu de s'occuper d'améliorer la condition féminine en France. Et par améliorer, j'entends personnellement changer sensiblement le rapport entre l'égalité des droits des hommes et des femmes. Les femmes et les hommes n'ont pas aujourd'hui les mêmes droits en France. Ça ne signifie pas que les femmes vont devenir égales des hommes, ce qui n'a pas grand sens. Elles sont différentes, mais leurs droits doivent être les mêmes.
Je m'adresse à l'historienne que vous êtes. Vous avez étudié le XXe siècle en France. Vous avez une expérience américaine de par votre naissance et vos études. Est-ce qu'il faut légiférer pour que ces droits existent d'abord et soient appliqués?
C'est évident qu'il faut légiférer, il faut des lois, on voit bien dans les lois récentes que ça reprend des lois qui ont déjà été actées et qu'il ne suffit pas de passer des lois pour que l'égalité devienne automatique dans la société.
Donc d'où les observatoires de l'égalité, d'où l'implication des entreprises, il faut un contrat social pour mettre en œuvre ces lois.
Bon, c'est clair que c'est un pas, c'est pas toujours le premier pas, mais parfois c'est le premier pas et puis ensuite il faut de l'éducation, alors je dirais l'éducation dans les établissements scolaires, mais l'éducation civique tout simplement pour expliquer pourquoi en effet on a encore besoin de ces lois et que ça fait 40 ans en France qu'on tourne autour de lois sensiblement les mêmes pour l'égalité dans le travail. Et on voit encore de très grandes inégalités.
Rebecca Rogers, quand on fait partie de la jeune génération et qu'en fait on jouit pleinement de tous ces droits, est-ce qu'on se rend forcément compte de la nécessité justement de cette législation et de la pertinence de la continuité du combat?
C'est clair, mes étudiants, et qui sont surtout des étudiantes, s'en rendent absolument compte, hein, d'où l'importance de l'histoire pour leur montrer que c'est au fond un combat récent, hein, quand on regarde les 50 dernières années. C'est aussi une des raisons pour lesquelles maintenant dans les universités, on est de plus en plus à vouloir sensibiliser l'ensemble des étudiants à ces questions. Parce que pour des jeunes de 20 ans, sans doute, c'est incompréhensible, certains ne ces débats. Tant qu'on n'a pas été dans le monde du travail, on a été à l'école, les filles réussissent plutôt mieux à l'école, donc on se demande vraiment de quoi elles parlent ces féministes.
De quel combat s'agit-il ? Effectivement, dans le monde du travail, et surtout en grande période de chômage, comme actuellement dans le monde entier avec la crise, c'est d'autant plus flagrant.
Oui, et dès qu'on regarde, par exemple, tout ce qui concerne le temps partiel, c'est les femmes, très majoritairement, qui sont concernées par ça. Qui dit temps partiel, dit aussi revenus bien moindres à la fin du mois, des retraites moindres, donc ça a des conséquences en chaîne. Et là, je pense que quand on a 20 ans, on a un peu de mal à concevoir ça.
Merci Rebecca Rogers. Je rappelle que votre Fabrique des filles est pleine d'images et de documents formidables. Un siècle d'éducation des filles à découvrir aux éditions textuelles. Un album co-écrit avec Françoise Thébault.
Est-ce qu'elles sont belles ces nanas ? Ah la vache ! Qu'elles sont belles !
Diables. La Fabrique des filles, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompeani. N'oubliez pas de vous exprimer, les filles et les garçons, sur marche.monde@rfi.fr. N'hésitez pas à partager vos témoignages sur Facebook. D'où que vous soyez dans le monde, podcastez cette émission, c'est la vôtre.
Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez pucelle chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Vendez des boîtes de chocolat. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Surtout, ne vous mariez pas.
C'est qu'a dit que les filles maintenant n'étaient plus comme celles d'avant. Qui c'est qu'a dit tout ça? Qui c'est qu'a dit que les filles maintenant n'étaient plus comme leur maman? Qui c'est qu'a dit tout ça?